Bonne année, bonjour à tous. Une déclaration en forme de vœu du nouvel an à retenir ce matin. La cinquième vague de l'épidémie est peut-être la dernière, espère Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dévoilé ce matin les nouvelles règles d'isolement. 7 jours pour les personnes vaccinées, quel que soit le variant. Les précisions de Sophie Bécherel dans un instant. Invité de ce journal, Benjamin Davido, infectiologue et référent Covid à l'hôpital de Garches. Un troisième féminicide depuis le début de l'année, depuis hier, une femme de 46 ans, retrouvée morte dans le coffre d'une voiture à Nice. Le collectif Nous Toutes dénonce le silence d'Emmanuel Macron et du gouvernement. La rave party dans Lyon a pris fin ce matin dans le calme. Tous les fêtards ont quitté les lieux. Dans ce journal également, un pilote français du Dakar grièvement blessé dans l'explosion de sa voiture. Et puis en football, 16e de finale de la Coupe de France avec 4 petits poussés de National 3 plein d'ambition. La météo douce de ce début d'année, Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal.
France Inter.
La décision était attendue. Les nouvelles règles d'isolement des personnes positives et cas contact au coronavirus ont été dévoilées ce matin par Olivier Véran. Dans une interview au journal du Dimanche, le ministre de la Santé annonce un allègement de ces règles qui entrent en vigueur demain. Le ministre se montre également plus optimiste ou moins pessimiste concernant la cinquième vague qui sera peut-être, dit-il, la dernière. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Alors, concernant la quarantaine et les règles d'isolement, Sophie, Olivier Véran annonce une simplification, désormais règles identiques, quel que soit le variant Delta ou Omicron.
C'est cela, la période de quarantaine est réduite à 7 jours pour les personnes positives au Covid-19 pleinement vaccinées, c'est-à-dire avec le rappel. Cet isolement peut être levé au bout de 5 jours dès lors que le test de contrôle antigénique ou PCR est négatif. Pour les cas contacts, s'ils sont vaccinés, il n'y a plus d'isolement, mais il faudra continuer à respecter les gestes barrières, bien sûr, et faire des tests réguliers. Maintenant, pour les personnes non vaccinées ou dont le schéma vaccinal reste incomplet, elles devront, en cas de positivité, s'isoler 10 jours, avec sortie possible à 7 jours, toujours si le test de contrôle est négatif. Et si on est cas contact, sans être vacciné ou avec un schéma vaccinal incomplet, alors la quarantaine est de 7 jours. Un test en laboratoire ou en pharmacie est nécessaire pour briser cet isolement. À la veille de la rentrée des classes, le ministre de la Santé affirme que ces règles s'appliquent pour les enfants. 7 jours à la maison s'ils sont positifs et s'ils sont cas contact, il faudra 3 tests consécutifs négatifs pour pouvoir revenir en classe. Certains pourraient être d'ailleurs des autotests.
Alors autre annonce, Sophie, l'accélération du délai pour la dose de rappel à partir du 15 février.
Exactement. Le délai entre la deuxième dose et le rappel ne sera plus de 7 mais de 4 mois, sachant qu'une infection compte pour une dose dans le schéma vaccinal. La validité du pass sanitaire reste associée à cette vaccination complète. Comme le délai entre la deuxième et la troisième dose avait déjà été réduit à 3 mois, le nombre de personnes éligibles a bondi. L'objectif affiché par le ministre de la Santé est d'injecter 25 millions de doses ces 5 prochaines semaines. C'est un défi logistique de taille. Les doses de vaccins sont là, dit Olivier Véran, qui promet 4 à 5 centres spécifiquement orientés vers les enfants par département.
Sophie Bécherel, merci. Et ces nouvelles règles d'isolement que vous venez de nous détailler, Sophie, sont à retrouver en détail également sur franceinter.fr. Invité de ce journal, Benjamin Davido, infectiologue, directeur médical et référent Covid à l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Benjamin Davido.
Bonjour à tous les auditeurs.
Est-ce qu'il y a, selon vous, des raisons d'espérer d'être moins pessimiste malgré les chiffres des contaminations vertigineux depuis mercredi? On avait plus de 200 000 nouveaux cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Véran? Cette vague sera peut-être la dernière?
Oui, écoutez, je le crois. Moi, je le défends depuis à peu près une semaine. Pourquoi? Parce que il faut se féliciter. Parfois, on a plus de 9 adultes sur 10 qui sont doublement vaccinés. Même si on peut discuter que le mot de schéma vaccinal complet est un peu caduque avec Omicron et un tiers de la population qui a eu le rappel et donc qui est largement couvert avec 3 doses. On a un variant extrêmement contaminant, probablement aussi contaminant que la rougeole des maladies respiratoires aériennes. On estime le R0 à plus de 10. Ça veut dire que ça va très très vite et que lorsqu'on vous dit qu'il y a 250 000 contaminations par jour, il y en a probablement 2 fois plus, voire 3 fois plus. Pourquoi? Parce que on le sait des données de science, il y a au moins autant d'asymptomatiques et de personnes qu'on rate dans le dépistage avec un tel nombre de cas quotidiennement.
Benjamin Davido, on parle d'un pic épidémique qui devrait culminer mi-janvier. À ce rythme-là, c'est le délai que vous prévoyez également pour le pic de l'épidémie avant que ça redescende?
Oui, écoutez, il suffit de regarder, vous allez sur Covid Tracker, vous voyez, c'est plus une courbe épidémique, c'est une verticale, ça donne le vertige, c'est une véritable fusée, et vous savez, un peu comme le satellite qu'elle va larguer, il est possible que le parachute se déploie très très vite, et on espère que ça retombe très très vite. Ce qui malheureusement pour les soignants ne va pas beaucoup changer, c'est que si vous avez une maladie 10 fois plus contagieuse, et que tant bien même elle serait 3 fois moins sévère, vous aurez arithmétiquement beaucoup de malades qui arriveront à l'hôpital pour une prise en charge, pour de l'oxygène, même si c'est de courte durée, même si c'est majoritairement des gens vaccinés, et ça, il va falloir le gérer au détriment de personnes qui sont vaccinées et qui viennent pour d'autres pathologies. Et donc, évidemment, nous, on espère que cette vague sera la dernière parce que ça devient extrêmement difficile pour l'hôpital.
Sophie Bécherel, une question pour vous.
C'est le grand nombre de personnes vaccinées et immunisées qui vous fait dire cela ?
Oui, absolument. Pourquoi ? Parce que, en fait, le virus, il va ricocher contre une population majoritairement protégée, qui est très immunisée. En réalité, l'objectif, je pense, c'est la double immunité, à la fois vaccinale et naturelle. Certains l'opposent. Je pense que c'est une erreur. Et que la concordance des temps avec cette période de rappel fait que la vague devrait passer. Et puis, on a aussi l'exemple, quand même, dans d'autres pays, même si l'Afrique du Sud, c'est populations plus jeunes, ils sont paradoxalement beaucoup moins vaccinés et il y a une vague de décès beaucoup moins importante qui fait penser qu'avec les caractéristiques d'Omicron, on devrait acquérir cette double immunité à la fin de la vague, ce qui évidemment serait une bonne nouvelle.
Alors, allez-y Sophie. Allez-y,
pourquoi
Sophie.
Un autre variant ne pourrait pas survenir finalement et nous replonger dans une 6e vague ?
C'est une très bonne question. En réalité, si le scénario optimiste se profile et qu'on a cette double immunité, en réalité, on sait que l'immunité naturelle a des récepteurs, une réponse mémoire plus durable. Dans un article de Nature, on l'estime de 18 à 24 mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas se réinfecter. D'ailleurs, c'est le cas avec Omicron pour ceux qui ont fait Delta, même si ça reste un événement rare. Mais que dans un scénario optimiste, on pourra imaginer qu'on se contamine de façon saisonnière, en fait, que l'épidémie va acquérir une saisonnalité hivernale et qu'ensuite, on vaccinera les gens les plus fragiles et que le Covid deviendra un coronavirus comme les autres, c'est-à-dire une maladie responsable surtout de bronchites et de symptômes ORL comme le rhume saisonnier.
Ça veut dire, Benjamin Davidot, qu'on risque d'être débarrassé de ce virus, en tout cas de sa violence et de sa contagion d'aujourd'hui, pour se rapprocher d'une grippe, par exemple ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée de dire que c'est la dernière vague, c'est un abus de langage parce qu'il y aura toujours des vagues, des saisonnalités de ce virus. Il a aucune raison de disparaître. Il est bien avec nous. Au contraire, il mute pour pouvoir vivre avec nous. Il nous aime bien en réalité. Vous savez, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Sauf que la réalité, c'est que si on arrive à le rendre moins sévère ou malheureusement à toucher les personnes qui sont également vulnérables à la grippe, eh bien, on pourrait ensuite arriver sur une vaccination avec un schéma grippe-Covid qui se ferait annuellement pour ces gens les plus fragiles, qui sont les mêmes populations, je le rappelle.
Benjamin Davidot, sur la quatrième dose de vaccin, donc délai raccourci à partir du 14 février, c'est important, il faut le faire. Quelle est votre position ?
Je pense surtout qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, avant de faire la quatrième, c'est de faire la troisième.
Oui, c'est la troisième dose à partir du 14 février, mais on parle d'une quatrième dose, effectivement.
Oui, mais vous savez que la quatrième dose, d'abord, Israël a fait marche arrière dessus. Pourquoi ? Parce que dans ce scénario où on acquérait une dose de rappel avec Omicron, y compris lorsqu'on est déjà vacciné, en réalité, ça déplacerait tous les schémas. Je crois que la vraie question de la quatrième dose, en fait, indépendamment de dire que c'est une vaccination par Omicron, parce qu'évidemment, il y a des gens, malheureusement, il faut le rappeler, 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, qui arithmétiquement, 0,5%, arriveront à l'hôpital et ont un risque que ça se passe mal. La réalité, c'est qu'il faudra probablement des doses supplémentaires. Après, je crois qu'il faut arrêter de les compter. Ça s'appelle des rappels. On compte pas combien de fois on a été vacciné contre la grippe lorsqu'on a plus de 65 ans et qu'il faudra mettre à jour ce vaccin. Et j'espère que dès le printemps prochain, on aura un vaccin Omicron nouvelle génération.
Benjamin Davidot, merci beaucoup, infectiologue.
Je vous en prie. Très bonne fête à tous.
Très bonne fête à vous et directeur de médical et référent Covid à l'hôpital de Garches. Merci à vous. Et j'ajoute que demain, Olivier Véran, le ministre de la Santé, sera l'invité de Léa Salamé à 7h50. Le corps sans vie d'une femme de 46 ans retrouvée dans le coffre d'une voiture à Nice. Son compagnon âgé de 60 ans a été placé en garde à vue avec l'un des fils du couple. Hier déjà, deux femmes âgées de 27 et 56 ans avaient été tuées à coups de couteau dans le Maine-et-Loire et en Meurthe-et-Moselle. Leurs compagnons également ont été placés en garde à vue ce matin à Nice. Le maire Christian Estrosi se dit dévasté. Julie Munch de France Bleu Azur.
Après avoir expliqué s'être disputé avec sa femme ou son ex-femme, cet homme de 60 ans conduit les enquêteurs dans le quartier de la Madeleine à Nice. À ce moment-là, il assure ne pas savoir dans quel état se trouve la victime, mais sur place, il emmène les policiers dans un garage où il découvre le corps sans vie placé dans le coffre d'une voiture. Ce véhicule n'appartient pas au principal suspect, mais au fils aîné du couple, âgé de 24 ans. Il se trouve donc lui aussi en garde à vue avec son père. Les enquêteurs vont donc maintenant procéder à une autopsie pour comprendre comment a été tuée cette femme. Mais selon les premiers éléments, elle aurait été étranglée. Sur Twitter, Christian Estrosi, le maire de Nice, dénonce l'horreur de cet assassinat et adresse ses pensées aux proches de la victime, qui était un agent de la collectivité.
Ces meurtres ont suscité la colère des collectifs féministes. Les violences envers les femmes ne s'arrêtent pas avec la nouvelle année. Les féminicides sont seulement le haut de l'iceberg, selon le collectif Nous Toutes. Il y a avant énormément de violences psychologiques et physiques, et le collectif Nous Toutes qui a compté cette année 113 féminicides en 2021. Ce collectif dénonce également ce matin le silence d'Emmanuel Macron et du gouvernement. La rave party dans l'Yonne se termine dans le calme. Les millefêtards ont quitté le lieu ce matin, ou sont sur le point de le faire. Une enquête a été ouverte pour organisation illicite d'un rassemblement festif à caractère musical par le parquet d'Auxerre. Et les forces de l'ordre, mobilisées tout au long du week-end, ont procédé à plus de 600 contrôles. Les précisions de Nourane Mouhamoudi de France Bleu Auxerre.
Eh oui, la fête est terminée et depuis plusieurs heures déjà, il n'y a plus de musique. Elle a été coupée vers 1h du matin. Il ne reste sur place qu'une petite cinquantaine de toughers. Le parking est quasiment vide. Il y avait hier, on le rappelle, près de 500 véhicules. La majorité d'entre eux est partie vers 7h ce matin. Et d'ailleurs, le maire de Saint-Florentin, Yves Delot, est sur place depuis quelques heures. Il s'assure que tout rentre dans l'ordre, tout comme les gendarmes qui sont arrivés vers 10h pour évacuer les derniers fêtards encore sur le site. Et j'ai pu d'ailleurs discuter avec certains d'entre eux qui me confiaient préférer attendre encore un peu avant de prendre la route parce qu'ils étaient fatigués ou simplement parce qu'ils avaient consommé de l'alcool ou des drogues et qu'ils attendaient d'être lucides avant de partir.
Nourane Mahmoudi de France Bleu, Auxerre. En bref, le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe a été retiré ce matin. Selon le calendrier prévu, indique l'Élysée, le drapeau bleu de l'Europe avait été installé pour marquer le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ce qui avait provoqué un début de polémique avec les partis de droite et d'extrême droite. À l'étranger, un mystère en Corée, sur l'une des frontières les plus surveillées au monde, le jour du Nouvel An. Une personne non identifiée est entrée en Corée du Nord par voie terrestre depuis le sud. L'individu a été détecté par les équipements de surveillance de la zone démilitarisée. Depuis, il est introuvable. Depuis des années, la répression et la pauvreté en Corée du Nord ont conduit des dizaines de milliers de personnes à fuir vers le sud, notamment après la guerre de Corée. Mais les passages dans l'autre sens sont extrêmement rares. Sur place à Séoul, Nicolas Roquin.
C'est vers 21h, samedi soir, heure de Séoul, que l'armée sud-coréenne a détecté une personne dans la DMZ, la zone tampon étroitement surveillée qui sépare les deux pays. En réalité, 3 heures auparavant, cet individu était déjà passé devant des caméras de surveillance sans être remarqué pour autant. Vers 22h40, ce dernier était parvenu à atteindre la Corée du Nord. Depuis, aucune nouvelle ni mouvement suspect de la part des troupes de Pyongyang. Ces derniers n'ont pas non plus donné de réponse officielle à l'armée sud-coréenne qui a alerté le Nord ce dimanche matin d'une éventuelle défection. Cette traversée est un véritable exploit tant la zone est surveillée des deux côtés et remplie de mines comme de barbelés. Toutefois, difficile de savoir si cette personne est encore en vie, car la Corée du Nord a une politique très stricte dans la lutte contre la pandémie et les soldats auraient consigne de tirer sur tous ceux qui tentent de traverser la frontière. Lorsqu'en septembre 2020, un Sud-Coréen avait été trouvé dans les eaux territoriales nord-coréennes, les militaires l'avaient abattu avant de brûler son corps. Nicolas Roca, Séoul, France Inter.
Et puis au Cap, en Afrique du Sud, un incendie est en cours et ravage le Parlement. Une partie du toit a été détruite après 8 heures de combat. Face aux flammes, les pompiers ne sont toujours pas parvenus à maîtriser le feu. Un pilote français du Dakar, grièvement blessé à une jambe par l'explosion de sa voiture près de Jeddah en Arabie Saoudite. Le directeur du Dakar, David Castera, a annoncé que le pilote français Philippe Boutron a été blessé par un engin explosif placé sous son siège. Philippe Boutron, 61 ans, est aussi le président du club de football de l'US Orléans, 3e division. Il devait participer à son 9e Dakar. Ce matin, il va mieux. Son état de santé s'améliore. Alexandre Vaux.
On est en milieu de matinée. Un véhicule de l'équipe Sodicar est immobilisé à la sortie de son hôtel par une explosion. Le véhicule prend feu. 6 Français sont à bord selon ASO, l'organisateur du rallye raid. Les 5 passagers sont indemnes. Mais le conducteur, Philippe Boutron, est gravement touché au mollet. Le pilote qui se préparait à prendre le départ doit être opéré, il devrait être rapatrié en France dans les prochains jours. Selon les premiers éléments, l'explosion proviendrait d'un engin placé sous le siège du conducteur qui, en explosant, a provoqué un trou dans le plancher. La police saoudienne s'est immédiatement rendue sur place. Dans un communiqué publié hier, ASO, l'organisateur du rallye, n'écartait aucune piste. Le ministère français des Affaires étrangères appelle à la vigilance maximale, rappelant que la menace terroriste persiste en Arabie Saoudite, même si pour le ministre de l'Intérieur saoudien, tout soupçon criminel est écarté. En attendant, les mesures de sécurité ont été renforcées autour de la course.
Alexandre, vous en football, 16e de finale de la Coupe de France à partir d'aujourd'hui, avec 4 petits poussés pleins d'appétit pour cette compétition. 4 clubs de National 3, Cannes, Thaon-les-Vosges et Linas Montlhéry et Chauvigny sont opposés à les équipes de Ligue 2 ou de Ligue 1. Chauvigny, dans la Vienne, reçoit ce soir le Grand Olympique de Marseille dans le stade de Limoges, plus grand. Et dernier entraînement, hier, avant le match, devant des supporters bruyants et enthousiastes. Reportage Thomas Vichard de France Bleu Poitou.
Une demi-heure après le début de l'entraînement, déferlement de maillots sang et or dans le stade. Les supporters sont venus une dernière fois soutenir leurs joueurs et surtout vérifier qu'ils sont en forme un lendemain de réveillon, plaisante Bernard.
Ben, je pense qu'ils sont plus frais que nous. Hein. Et entendre l'entraîneur, je pense qu'il est en forme.
Aurélie sera à Limoges ce soir, mais il était impensable pour elle de rater le dernier entraînement.
Mais on voulait déjà voir ce qu'ils faisaient, et puis bah, c'est important de les soutenir. On soutient notre équipe.
Et sa ferveur, elle l'a transmise à son fils Clément, 10 ans.
Chauvigny, on soutient, c'est la meilleure équipe. Ils vont gagner la Coupe du Monde.
Antoine est un peu moins idéaliste, mais il y croit quand même.
C'est un peu sûr que c'est un peu Marseille qui va gagner. Comme c'est une équipe pro, ils vont quand même essayer, Chauvigny, d'essayer de gagner.
Dans les tribunes, Rémi donne de la voix au point de ne presque plus en avoir.
Ils comptent sur nous, c'est le dernier entraînement, donc on vient pour leur donner un maximum de soutien avant cette rencontre historique. Franchement, serein à 100%.
Et pour les Marseillais, il a un message à faire passer.
Marseille, on vous attend. Marseille, soyez prêts parce que nous, on est prêts, on est chaud bouillant.
Voilà, bon, on verra, coup d'envoi à 21h ce soir et puis demain, le PSG se rend à Vannes, mais sans Lionel Messi, dont on a appris ce matin qu'il avait été testé positif au coronavirus. En Angleterre, 28 ans après le drame de Sheffield et la mort de 97 personnes dans le stade d'Hillsborough, c'est le retour des tribunes debout dans les stades de football. Un comeback sur lequel travaillait le gouvernement britannique depuis un moment et qui va se concrétiser aujourd'hui à Stamford Bridge à l'occasion de la grosse affiche de Première Ligue, Chelsea-Liverpool. Liverpool, le choc entre le troisième et le deuxième du championnat anglais. Cette ancienne pratique du public debout en tribune en Angleterre, longtemps jugée dangereuse, fait donc son retour sous les conditions très strictes. Richard Place à Londres.
Quelques milliers de supporters auront donc la possibilité de ne pas s'asseoir une seule fois pendant toute la partie. 90 minutes debout, à chanter, encourager, s'enflammer. Voilà le rêve exaucé de ces fans dans leur stade de Stamford Bridge. Ce n'est pas un retour aux anciennes pratiques, quand les spectateurs s'entassaient, peu importe le nombre, collés les uns aux autres. Non, chacun aura une place attribuée, avec un siège rétractable, libre à lui de l'utiliser. Et tout le long de chaque rangée, une barrière métallique pour éviter les chutes. Une perspective enthousiasmante pour Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea.
Je suis content pour les supporters. Je sais qu'ils aiment ça et qu'ils attendent ça depuis longtemps. Des endroits dédiés où ils peuvent regarder le match debout. Ça leur procure plus d'émotion. Avec un peu de chance, ça nous donnera un petit coup de pouce et ça transcendra nos supporters parce qu'on a absolument besoin d'eux à leur meilleur niveau.
Manchester United, mais aussi Manchester City ainsi que Tottenham ont déjà fait les aménagements nécessaires dans leur stade. Pour les prochains matchs à domicile, leurs supporters, eux aussi, pourront rester debout. Londres, Richard Place, France Inter.
La météo toute en douceur, une météo trop douce pour ce week-end du Nouvel An. Et avant de retrouver Jean-Pierre Hameau pour les prévisions complètes, on va faire un détour par Saint-Étienne où il fait 16 degrés. Il a fait 16 degrés hier. Les Stéphanois et les Stéphanoises en ont profité et profitent de ce week-end chaud du Nouvel An. Reportage Louis Storman, France Bleu, Saint-Étienne-Loire.
Son bob vissé sur la tête, Ada sort les boules de pétanque en se souvenant de son 1er janvier 2021.
Il y avait 10 cm de neige, on a fait une bataille de boules de neige. On avait même bu le champagne sous la neige à minuit. Ouais.
Cette année, c'est une toute autre histoire.
Là, on est à la plage, on va jouer à la pétanque, c'est plus du tout pareil.
En vrai, il fait combien de température là ?
15 à 16 degrés à l'ombre, et les 5 amis oublient presque que c'est l'hiver.
Non, tu tires pas, tu tires pas. Tu pointes et tu pousses.
Bah là tu tires, là, t'as tiré la mienne. Il y a trop de soleil en fait, on peut pas jouer à la pétanque.
Trop de soleil pour viser le cochonnet, alors Thomas, lui, préfère un bon livre.
Après 15 jours de gris, ça fait du bien. Ça arrive d'avoir des grands soleils, il fait chaud l'hiver de temps en temps, mais c'est un peu bizarre le 1er janvier, mais je pense que c'est bien d'avoir un peu des deux chaque année, comme ça, ça diversifie.
Et quand le soleil ou la fatigue se font trop écrasants, on peut faire comme Benoît.
Le programme, c'est d'éponger les excès de la veille.
Et le soleil, ça aide ?
Bien sûr, ça permet de faire évaporer, c'est chimique, ça c'est physique. Juste on est assis et on laisse le soleil faire le travail. C'est vraiment très passif comme activité. On recharge les batteries avant l'arrivée de la neige et du froid la semaine prochaine.
Car Météo France annonce un retour des températures négatives dès mercredi.
Louise Thoman, France Bleu, Saint-Étienne, Loire.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Cet après-midi, il faudra composer avec un ciel le plus souvent nuageux entre la Bretagne et la région Poitou-Charentes, mais aussi de la Normandie à la Bourgogne en passant par le centre et la région parisienne et des Hauts-de-France à la région Grand Est. De courtes averses se produiront par moments. À noter un vent soutenu de sud-ouest jusqu'à 50 km par heure, compté 60 à 70 le long des côtes de la Manche. Sur le littoral méditerranéen ainsi qu'en basse vallée du Rhône, vous retrouverez une bonne tartine de nuages bas. Dans les autres régions, le soleil, même voilé, restera au menu de votre après-midi. Côté température, prévoyez 11 à Dijon et Nîmes, 12 à Nancy, Lyon et Marseille, 14 à Paris comme à Strasbourg et Nantes, 15 à Toulon et Bastia, 17 à Toulouse, 18 à Bordeaux. On attend encore 19 degrés à Biarritz. Lundi, une nouvelle perturbation avec des pluies soutenues va intéresser les régions allant de la Bretagne à la Normandie, du centre aux frontières belges et luxembourgeoises, en passant par la région parisienne.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.